VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, nouveaux attentats suicides à Maïdougouri dans le nord-est du pays. Deux femmes kamikazes déguisées en hommes se sont fait exploser aujourd'hui dans une mosquée lors de la prière du matin, tuant au moins 22 fidèles et en blessant 35 autres. C'est ce qu'annoncent des responsables des services de secours de la capitale de l'État de Borno, régulièrement ciblés par les islamistes de Boko Haram. Selon le porte-parole de l'agence de gestion des urgences dans cet État, Abdoulaye Omar, l'explosion s'est produite dans la mosquée de Molaï à la périphérie de Maïdougouri, qui avait déjà été la cible d'un précédent attentat le 15 octobre 2015 qui avait fait 30 morts et 32 blessés. Le gouvernement nigérien affirme que Boko Haram a été techniquement vaincu par les forces de sécurité, mais les djihadistes de cette nébuleuse née en 2002 à Maïdougouri continuent leurs attaques dans l'état de Borno et le Cameroun voisin. Au Niger, les ténors de l'opposition nigérienne se sont réunis en conclave à Niamey ce matin au lendemain de l'annonce de l'évacuation de l'opposant et candidat à la présidence Mahamadou en France pour raisons médicales. Écoutez la réaction du porte-parole de la coalition d'opposition au CENI Salatou au micro de notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Pour nous, tant que Mahamadou ne quitte pas l'espace aérien nigérien, il n'a pas quitté le Niger. C'est clair et net. Même s'il l'amène à Niamey, tant qu'il n'a pas quitté, l'avion n'a pas quitté l'espace aérien nigérien pour nous, il n'a pas quitté parce qu'il peut le faire revenir. Et nous confirmons et nous disons que Issou Mahamadou sera responsable de ce qu'il y adviendra.
Ousseini Salatou, porte-parole de la coalition de l'opposition. Dans une déclaration un peu plus tard à l'AFP, Ousseini Salatou a dit que l'hélicoptère ayant évacué Mahamadou de la prison de Filenge est bien arrivé à l'aéroport de Niamey, d'où le leader de l'opposition sera évacué sur Paris. Les autorités nigériennes n'ont pas encore confirmé cette information. Le conflit au Soudan du Sud, maintenant, les crimes de guerre se poursuivent sans relâche dans le pays. Meurtres, viols systématiques et disparitions forcées sont le lot quotidien de la population, comme l'ont fait ressortir de récents rapports de l'ONU, d'Amnesty International et de Human Rights Watch. Pour certains groupes de défense des droits humains, des sanctions et d'autres mesures ciblées pourraient avoir un impact là où un accord de paix a échoué. Des précisions avec Jacques Aristide.
Décembre 2013, la date qui marque la descente aux enfers pour le Soudan du Sud. Des combats éclatent, c'est l'escalade. L'ONU parle de violences graves et systématiques à l'égard des civils. En octobre dernier, dans l'état d'unité, plus de 60 hommes et garçons sont découverts morts asphyxiés. Amnesty International accuse les forces gouvernementales. Durant le même mois, Human Rights Watch révèle preuve à l'appui des abus graves perpétrés dans la région de Western Equatoria. Les signataires de l'accord de paix, paraphé en août 2015, ne sont pas prêts de former un gouvernement d'unité nationale. L'une des pierres d'achoppement, la démilitarisation de Djouba, sujet qui continue de diviser le président Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar. Pour des observateurs qui mettent en doute le bien fondé de l'accord de paix, il est grand temps pour la communauté internationale de prendre de nouvelles mesures afin de mettre un terme au drame qui se joue au Soudan du Sud.
Groigne des étudiants tchadiens au Tchad, mais aussi à l'étranger, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Plus de 300 étudiants tchadiens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement ont été exclus des cours, le Tchad n'ayant pas payé leur étude. Faute de bourse, certains campent dans les locaux de l'ambassade du Tchad à Ouagadougou. On écoute leur porte-parole, Charles Dagou.
Ça fait exactement 2 ans et 7 mois que l'État n'a pas régularisé nos frais de scolarité et non plus nos bourses de subsistance. 2 ans et 7 mois que nous sommes sur le territoire burkinabé. Les 7 mois que nous avions passés, nous les avions passés dans les chambres en campus parce que l'école a sorti une note circulaire pour nous suspendre les cours. Et une fois que ces notes-là sont sorties, on a entrepris des démarches auprès de nos autorités. On a fait parvenir à l'ambassade nos revendications, croyant que celles-ci allaient faire porter haute notre voix, mais ces déclarations ont été sans effet par rapport à nos états. Et nos autorités sont arrivées aussi au Burkina le 29 décembre à l'investiture du président du Burkina en la personne du ministre des Affaires étrangères. On lui a remis en main propre notre plateforme et il nous a confirmé qu'il devait rendre cette plateforme-là à notre président. Et notre président est revenu ici au Burkina encore lors des événements qu'avait connu le Burkina et notre ambassadeur a réitéré cette phrase-là encore pour nous dire que notre président a pris acte de notre situation. Et au jour où on vous parle, rien n'a été fait. Ce qui nous a amené à venir à l'ambassade, c'est que le 5 mars dernier, l'école a sorti une note de service pour exclure tous les étudiants qui avaient résident sur le campus. Et comme on est sans abri, et ceux qui logent au quartier aussi ont des impayés de loyers et on s'endette pour vivre, on s'est réunis, on a écrit une lettre d'avertissement aux autorités compétentes qui est restée sans suite. On a organisé une conférence de presse dans laquelle on a dit qu'on allait occuper les locaux de notre ambassade à Ouagadougou. Tout ceci dans le but de dire à nos intérêts ce que nous voudrions faire dans la mesure où ils peuvent peut-être nous proposer des solutions de sortie.
Faute de solution, vous occupez actuellement les locaux de l'ambassade du Tchad à Ouagadougou. Comment ça se passe là-bas?
Quand on était arrivé hier matin, la sécurité n'était pas totalement en place. Ça fait qu'une partie de nous avait réussi à rentrer dans les locaux de l'ambassade. Par contre, les autres sont restés à l'extérieur de l'ambassade. Nous qui étions à l'extérieur, on a essayé de préparer quelque chose au courant de la journée pour envoyer à nos camarades à l'intérieur de l'ambassade. Mais la gendarmerie burkinabé qui est devant les locaux de l'ambassade nous ont interdit d'envoyer cette nourriture là-dedans. Et l'eau, on n'a pas pu aussi envoyer de l'eau à nos camarades qui étaient dedans. Ce midi-là aussi, la même chose s'est répétée. Pour nous, on pensait que la gendarmerie burkinabé assure ici la sécurité de l'ambassade parce que c'est le Burkina qui les a envoyés. Et ils n'ont pas à recevoir des ordres de nos autorités qui leur dit de nous empêcher de faire entrer de la nourriture ou de l'eau à nos camarades. Parce que ce sont nos autorités qui les ont demandé de nous refuser ces accès-là. Et alors on se pose la question de savoir de qui est-ce que ces gendarmes reçoivent-ils leurs ordres.
Charles Dagou, porte-parole des étudiants tchadiens occupant l'ambassade du Tchad à Ouagadougou, au micro de Timothée Donangmaï.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Primaire présidentielle aux États-Unis. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a de nouveau frappé fort hier lors d'un super mardi dans ses primaires. Côté démocrate, Hillary Clinton a fait un immense pas vers l'investiture. John Lindon.
La victoire éclatante du milliardaire de 69 ans en Floride marque la fin de l'aventure pour le jeune sénateur Marco Rubio, qui ne portera pas les couleurs républicaines lors de l'élection présidentielle du 8 novembre. Avec une victoire dans son état de l'Ohio, le gouverneur John Kasich est devenu de facto le candidat de la base traditionnelle du parti. Côté démocrate, la soirée fut très bonne pour Hillary Clinton qui, après un échec en 2008 lors de la primaire face à Barack Obama, espère cette fois-ci devenir la première femme de l'histoire à accéder à la Maison-Blanche. Au-delà de la Floride, l'ancienne secrétaire d'État l'a aussi emporté, comme attendu, en Caroline du Nord face au sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Mais sa victoire la plus belle de la soirée est celle de l'Ohio, État plus industriel, où son adversaire partait en position plus favorable.
Hillary Clinton se prépare maintenant à un duel contre Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre. Chacun des deux candidats a fortement consolidé sa position pour l'investiture aux conventions de juillet. C'est l'avis du professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville au micro de John Lindon.
Hillary Clinton a battu Sanders et c'est l'écart qui est impressionnant. Elle a écrasé vraiment Sanders. Elle commence maintenant une campagne contre les républicains comme si elle a déjà gagné. Et je suis d'accord, elle a probablement gagné l'investiture.
Côté républicain, Donald Trump a gagné la Floride et le sénateur Marco Rubio vient de jeter l'éponge.
Il a perdu dans son propre État. Donc ça montre la force de Trump. Il a gagné aussi en Caroline du Nord. Donc c'est impressionnant pour lui aussi, sauf que le fait qu'il a perdu l'Ohio et laisse une ouverture, même si c'est une mince ouverture, pour la campagne pour les autres, à la fois Kasich et Cruz. Donc je ne dirais pas que la campagne républicaine est terminée, pas encore.
Le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville. Conflit en Syrie maintenant, conformément à l'annonce du président russe Vladimir Poutine, les premiers bombardiers et avions de transport russes ont quitté la Syrie et ont été accueillis par les vivas à leur arrivée en Russie. En dépit de ce retrait, Moscou annonce son intention de poursuivre ses frappes aériennes contre ce qu'il appelle des objectifs terroristes en Syrie. Washington, pour sa part, estime que Moscou, jusqu'à ce stade, tient sa promesse de retirer le gros de son contingent militaire de Syrie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.